France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Deux pianos et deux pagnoles ce samedi dans Plan large avec Arnaud Desplechin et Sylvain Chaumet et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large. Ce sont deux films aux frontières du fantastique et du romanesque qui nous occupent aujourd'hui, où des personnages hantés par des fantômes du passé, et en particulier celui de leur propre enfance, cherchent et trouvent parfois dans l'art une consolation à leur solitude sur une ligne PLM qui va de Marseille à Paris et retour en passant par Lyon. Le premier est signé d'un habitué de cette émission qui, depuis La vie des morts en 1991, occupe une place singulière dans le paysage du cinéma français, c'est Arnaud Desplechin. En même temps qu'il se replongeait dans ses souvenirs de spectateur qui, au pluriel et avec un point d'exclamation, donnait son titre à son essai sorti l'an dernier, le fils naturel de François Truffaut et de Claude Lanzmann préparait une nouvelle fiction où se retravaillent nombre de ses thèmes familiers, mais avec quelque chose de changé, de l'ordre d'une liberté dans le mouvement, d'une légèreté et d'une apparente modestie dans les grands élans romanesques. C'est deux pianos et nous allons en parler dans un instant avec le cinéaste. Le second marque le retour, 12 ans après une incursion dans les images en prise de vue réelle, c'était Attila Marcel, d'un des plus grands animateurs du cinéma français, voire mondial, l'auteur des Triplettes de Belleville et de L'Illusionniste. Presque 100 ans après le cinéma, Sylvain Chaumet est lui aussi passé du muet au parlant avec cet étonnant biopic dessiné qu'est Marcel et Monsieur Pagnol. Il nous en parlera tout à l'heure. En fin d'émission, c'est un autre fantôme, un géant, qu'un évoquera Charlotte Garçon dans sa chronique, la star Rock Hudson, dont on fêtera le centenaire le 17 novembre prochain, après avoir célébré les 40 ans de sa disparition précoce le 2 octobre 1985. Mais pour l'heure, l'orchestre s'est accordé les cordes salut de leur archer, l'arrivée de la pianiste, soliste et chef d'orchestre est maintenant au travail.
Bonjour, mon fils. Allez, tout le monde au travail. Les yeux sur moi.
Arnaud Desplechin.
Quelle entrée fracassante.
Oui, entrée musicale. Entrée musicale, précisément. Le cinéma d'Arnaud Desplechin, c'était plutôt jusqu'ici la littérature, le théâtre. La musique, c'est une première pour vous de filmer la musique.
De filmer la musique, oui, c'est une première. C'était peut-être un rêve, parce que j'ai eu la chance, grâce à Grégoire Hetzel, qui est le compositeur de beaucoup de mes films, d'assister à des enregistrements. Et alors, Grégoire me laisse rentrer dans la fosse, être à côté des instruments, il me laisse parler aux musiciens, il me laisse parler aux chefs d'orchestre et tout ça. Donc, je commence à être un petit peu accoutumé, quoi. Et donc, de filmer ça, c'était un plaisir énorme, énorme.
Alors, quelle question on se pose quand on doit filmer la musique et qu'on ne l'a jamais filmée?
Ben, la question que je me suis posée, c'était de... C'est souvent dans des films, les moments musicaux peuvent être des moments de pause dans le récit. Et là, tel que c'était écrit, les moments musicaux sont des moments de suspense et d'action. C'est-à-dire que dans la scène qu'on voit là, Mathias, François Civil, sort de cellule de dégrisement. Il arrive très troublé, etc. Donc, est-ce qu'il va se vautrer ou est-ce que ça va marcher? Donc, chaque scène, vous voyez, il passe une audition, est-ce qu'il va la gagner, perdre, il n'a pas envie, mais il a envie, etc. Donc, à chaque fois, il y avait un suspense, vous voyez, qui était propre. C'était pas des pauses. Donc, du coup, avec Paul Guillaume, le directeur de la photographie, on se focalisait sur l'action, quoi. Où se trouvait l'action?
C'est d'autant plus l'action que c'est la fameuse question, on en a beaucoup parlé dans cette émission avec Charlotte Garçon, du piano shot, c'est-à-dire ce moment où on va prouver que c'est vraiment le comédien, la comédienne qui joue de l'instrument. Et là, effectivement, vous avez ces plans où on voit les mains, on raccorde dans un mouvement des mains de François Civil à sa figure, donc sauf trucage numérique particulièrement réussi, c'est bien lui qui joue.
François tenait beaucoup à ça. Quand on s'est rencontrés, c'était au Rostand, on prenait un café, et parce que je comprenais pas le personnage. Et fait des petits détours comme ça dans le personnage masculin que j'arrivais pas à attraper. Et donc j'avais tenu à le rencontrer. Et il me disait, par ailleurs, je sais jouer un peu de piano. Et j'ai dit, oui, mais ça m'intéresse pas, parce qu'avec les trucages, je peux le faire, etc. Mais ce qui m'importe, c'est comment ça se fait qu'il a ce rapport-là avec Elena, avec etc. Et il me donnait des réponses extrêmement articulées, très, très brillantes. Et il disait, par ailleurs, je joue un peu de piano. Et je lui ai dit, mais ça, je m'en fiche complètement, parce qu'on peut le faire avec des trucages. Et après, pendant le tournage, il a tenu à apprendre tous les morceaux. Certains qui demandaient trop de virtuosité... Il pouvait pas les jouer, donc il fallait passer par des trucages, mais il tenait à jouer certains morceaux lui-même. Et là, c'est pas des panneaux, on le voit en plan large et on voit les mains, et lui, c'est lui qui joue, quoi. Et il avait été voir l'ingénieur du son 2 jours avant le bac, je trouve tout dire. Et je voyais comploter avec l'ingénieur du son. Alors je me suis approché quand François a quitté le plateau. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il te raconte, ça? Il m'a dit, mets un micro dans le piano parce que Arnaud pourra en avoir l'usage. Et puis c'était très beau de voir le dialogue entre François et Grégoire Hetzel, le compositeur qui faisait la direction musicale, parce qu'il fallait jouer le bac, mais à notre façon, à celle de Grégoire et moi. Pas à la façon de Lipati, mais plutôt à la façon de Piboule. Donc il y avait des tas de trucs de piano qu'il devait apprendre. Et il s'est prêté à l'exercice, mais parce que c'est un acteur physique. Et si c'était de la boxe, il aurait appris à boxer. Là, c'était du piano, il a appris le piano.
Oui, parce que François Civil, on a l'habitude de le voir dans des films d'action, courant, se battant, etc.
Brandissant l'épée.
Mais c'est ça aussi qui vous intéressait précisément chez lui, parce que régulièrement, vous remettez un peu votre cinéma en jeu, vous prenez des acteurs, des actrices que vous n'avez jamais filmés. On se souvient de Roche Dizem dans Roubaix, une lumière, les apparitions de Marion Cotillard dans votre cinéma. Pourquoi il y a besoin de temps en temps de mettre justement de l'élément qui vient d'en dehors de la dépléchinerie, si on peut dire?
Ben, c'est un appétit d'autre chose. C'est un acteur qui me fascinait depuis un moment. Et le dialogue qu'il a avec le public aussi était très fascinant. Et je me disais, mais il y a des choses que je connais pas de lui. Alors je revoyais ses films un peu en boucle, etc. Et ce que je voulais surtout, c'est que l'histoire arrive à des gens très jeunes. C'est-à-dire, c'est comme... Il y a un sentiment de destin, de passé écrasant dans tout le film. Et ce passé écrasant, je voulais pas qu'il écrase des quarantenaires. Je voulais qu'il écrase des gens très jeunes. Je pensais en particulier au personnage féminin, à Claude.
Nadia Tereskiewicz.
Nadia Tereskiewicz, voilà qu'elle devient veuve au cours du film. Et elle est trop jeune pour ça. Elle est débordée. Elle sait pas comment on fait, quoi. Il fallait que ça arrive à des gens trop jeunes. Vous voyez, il y a une scène comme ça. Il y a un flashback dans le film qui vient trouer le récit. On voit une très jeune fille dans un train qui fait une bêtise pour faire rigoler sa copine. Voilà, c'est tout. Alors, évidemment, si elle a 25 ans, 30 ans, on fait pas des bêtises. Mais là, c'est une bêtise de 18. Qui pourrait juger une fille de 18 ans qui, comme ça, crânement, fait un pari stupide dans un train? Moi, pas. Alors, vous voyez, donc, du coup, ça permettait de rajeunir. Alors, ce sentiment de fatalité qui tombe sur des personnages si jeunes, je trouvais ça super beau, quoi.
Alors, quand vous faites venir des nouveaux personnages, des nouveaux acteurs dans votre cinéma, on a le sentiment qu'à chaque fois, la caméra est presque là pour les étudier. Enfin, c'est-à-dire pour les regarder, pour regarder longuement, notamment, leur visage en gros plan. Et ça m'a frappé encore plus dans ce film.
Peut-être. Ça vient de... Vous voulez que je vous raconte?
Alors je vous raconte.
Ça vient. Si vous voulez, c'est parce que je visite régulièrement mon père qui a l'âge qu'il a eu 91 ans le jour de la sortie du film. Et je ramène des DVD à lui et à ma mère, comme ça pour l'après-midi. Donc je ramène des films. Et alors je lui avais ramené un film de Kazan. Je suis pas du tout un Kazanien, mais j'avais ramené Wild River que j'aime beaucoup. Et mon père regarde le film, il prend un air snob, dit « Ouh, ouh, ça va comme ça ». Je dis « Papa, c'est quand même, c'est du 15 ans, quoi ». Et le lendemain, on regarde un Lars von Trier. Et là, je vois mon père collé à la télé. Alors, la semaine d'après, c'était mon tour également. Je ramène un autre Lars von Trier. La première fois, c'était Mélancolia. La deuxième fois, c'était pas Breaking the Wave, c'était celui avec Björk.
Dancer in the Dark.
Dancer in the Dark. Et là, je vois mon père accroché comme ça. Et alors, je lui dis, mais papa, qu'est-ce que t'as avec Lars von Trier? C'est quoi ce truc que tu découvres à 90 ans, Lars von Trier, etc.? Il dit, parce que tu comprends, cette caméra qui s'agite partout, ça crée du suspense. Alors, du coup, immédiatement, j'ai textoté à Paul Guillaume et j'ai dit, voilà, on va pas louer de Dolly, on va pas louer de Travelling et on louera pas de trépied caméra non plus. Tout sera tenu à la main. Et Paul a dit, formidable, partons comme ça. Et donc, il y avait une vivacité de l'image qui nous a nourris, Paul et moi, puis le dialogue entre Paul et moi faisait qu'on arrivait à attraper les visages de tout près, quoi, d'avoir ce regard scrutateur dont je rêvais.
Mais c'est peut-être ce qui donne ce sentiment de légèreté, mais dans le bon sens du terme, de ce que je disais tout à l'heure en préambule. Pour autant, il y a quand même des figures qu'on a repérées dans votre cinéma qui reviennent, qui font retour. On parlera de la question du retour, et notamment le personnage que joue Charlotte Rampling, sorte de figure tutélaire, un peu monstrueuse, mythologique, avec laquelle il faut se confronter, et qui va faire quelque chose aussi qu'on a l'impression d'avoir déjà vu chez vous. C'est cette lettre adressée à quelqu'un, dite en monologue, face caméra, comme Maurice Garrel pouvait le faire dans Roi et Reine. Alors là, ça se passe sous la douche, mais il y a des moments dépléchins qui reviennent dans votre cinéma.
Mais la lettre, elle est venue d'ailleurs, parce que oui, je pense à Lou, au roi Le Collinet, dans Trois souvenirs de ma jeunesse, qui écrivait des lettres en regardant la caméra et tout ça. Moi-même, j'écris pas mal de correspondances. Alors aujourd'hui, ça passe plus par les emails que par les lettres manuscrites. Mais je m'étais dit, non, je vais pas faire de lettres, etc. Et c'est l'accessoiriste qui m'a dit, vous savez, les accessoiristes, ils font recopier très sérieusement les lettres par les actrices ou les acteurs. Vous voyez, pour que l'accessoire soit, ait un peu de sentiment. Donc il y avait une lettre qui n'était pas lue. Et il fallait l'écrire. Et donc l'accessoiriste m'a dit, Arnaud, tu pourrais m'écrire un texte de lettre parce que j'y arrive pas. Alors du coup, j'ai écrit comme ça en vitesse sur un coin de table un bout de lettre. Et puis le lendemain, j'ai rendez-vous avec Charlotte, je lui montre la lettre, elle dit, ah ouais, c'est pas mal. Et on la filme. Alors du coup, on s'est dit, bon, on l'a rajouté dans le film. On l'a filmé parce que ça nous avait mis en appétit grâce à l'accessoire. Cette lettre devait pas apparaître. Et vous voyez, je suis retombé dans mes travers, Truffaldia à nouveau.
Alors, vive les complots d'acteurs, vive les complots d'accessoiristes aussi. C'est un film qui commence par un dialogue. Une femme demande à son mari, tu me racontes une histoire? Et lui, lui répond, mais j'ai plus d'histoire à raconter, j'ai tout dit. C'est une question qui se pose chez vous.
Bien sûr, à chaque fois que j'entends Jeremy Lewin dire ça, je pense à moi-même, bien sûr. Et alors, il va puiser dans sa mémoire et il trouve une petite histoire de Martin Buber, des récits acidiques, et lui raconte. Et les histoires drôles, c'est terminé, il en a plus, il lui reste plus que des bribes de Martin Buber à raconter à sa copine. Évidemment, on se dit, à chaque fois, j'ai déjà tout dit, et puis, fait des variantes. C'est, comment est-ce qu'on disait, c'était... J'ai lu ça il y a pas longtemps, c'est Neil Young à qui on disait, vous composez votre disque ressemble trop au précédent. Il disait non, et puis il disait non, c'est, je n'ai composé qu'une chanson pendant toute ma vie. C'est la même. Et voilà, donc ça m'a rassuré, je me suis dit si Neil Young y est passé, je peux y passer aussi.
Tu m'as trouvé ?
C'est une petite ville. Pourquoi tu regardes tes pieds ?
Parce que j'ose pas te regarder. De toute façon, c'est comme ça depuis que je te connais. Ça me fait toujours un choc, quoi.
Je suis pas très spectaculaire.
Tu es spectaculaire.
Je t'aurais laissé sortir avec moi pendant 3 semaines d'affilée, t'aurais pris l'habitude. Tu te serais lassée. T'aurais sauté dans les bras d'une autre.
T'étais jalouse.
Bien sûr. J'ai dit t'être tournée autour, je supporte pas.
Tu voulais pas de moi?
Non, non.
Et tu veux toujours pas de moi?
Non. T'es encore pianiste, toi? Tu t'es pas lassé?
Je sais rien faire d'autre.
Et moi, je comprends rien. La musique, ça me saoule. Tu rigoles?
Oui.
Bah, explique-moi alors. C'est comment la musique?
La musique, c'est...
Oh, waouh. C'est beau alors.
Oui, c'est pas facile de dire ce que c'est la musique et d'en parler si Claude, c'est donc Nadia Tereskevitch, retrouve Mathias. C'est François Civil, c'est que Mathias est un revenant, c'est quelqu'un qui retourne sur le territoire des souvenirs de sa jeunesse. Mm-hmm. Et c'est un personnage, là encore, récurrent chez vous, Arnaud Desplechin. Souvent, on rentre chez soi.
Ouais, je pensais, c'est marrant, parce que j'en ai parlé le jour de la sortie avec François, et je me suis pas rendu compte à quel point le souvenir de ce film et puis la revision de ce film avait nourri de piano. Et c'est Monsieur Klein, figurez-vous. Et son retour à Strasbourg, quand il retourne chez son père. Et Monsieur Klein, alors, il y a un double qui apparaît. Et il se dit, c'est lui ou c'est moi? C'est moi ou c'est pas moi? Il est perdu entre ces trucs-là. Et je pense qu'il y a quelque chose. Et je dis, c'est marrant parce que François... Et pas du tout sur le même régime que Delon. C'est ils ont un autre régime d'être au monde. C'est pas la même chose. Et pourtant, vous voyez dans cette silhouette avec ce paletot, ce manteau un peu sombre, etc. Et ce trouble qu'il peut avoir, et cette recherche qu'il peut avoir de son doux, puisque c'est ça l'histoire. Il revient dans sa ville natale. Il voit un enfant. Il se dit c'est moi. Et c'est qui est absurde. Et pourtant, il se dit cette absurdité, c'est vrai, c'est moi. Et il ne sait pas ce que ça veut dire quand il le dit, quoi. Et ce trouble-là, je pense à la silhouette de François sur un quai de métro à Lyon. Et ses souvenirs de Monsieur Klein. Et qui est un film qui m'avait marqué quand je l'ai vu à sa sortie, puisque j'en ai l'âge. Et que j'ai revu après, et qui est un film qui ne cesse de me travailler.
Et cette dimension fantastique imprègne effectivement tout le début du film, avant qu'on ne parte dans le romanesque absolu. Alors, il y a des questions de double, mais c'est aussi des questions de duo, enfin des duos de solistes. Il y a deux pianos, deux instruments, deux voix. Par exemple, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, ce sont deux solistes qui doivent jouer ensemble et qui vont s'accorder plus ou moins. Vous êtes attentif à cette dimension musicale chez vos interprètes? Est-ce que, comme Claude Chabrol, vous fermez les yeux pendant les prises?
Ah non, j'ai les yeux grands ouverts, je fais l'inverse de Chabrol, c'est je me bouche les oreilles. Oui. C'est moi, j'écoute pas ce que disent les adultes quand je regarde un film, j'écoute le son que ça fait, quoi. J'écoute pas les mots, donc je préfère, quand si je les vois, souvent ça m'arrive avec Laurence Brio, La Monteuse, quand on n'arrive pas à monter une scène, je lui dis enlève le son, s'il te plaît, enlève le son, mets de la musique. Ça me suffit de le monter comme un film muet, quoi. Voilà, le vrai cinéma, quoi. Et puis on monte, vous voyez, et je dis, donne une réplique là où il dit quelque chose de très fort, comme ça. Puis on met, puis après je dis, maintenant on peut écouter le son. Et ça marche toujours. C'est-à-dire, les répliques font toujours sens. Si vous faites confiance au visage, à l'âme des acteurs, la signification, elle suit, elle découle toute seule, quoi. J'écoute pas tellement ce qu'il dit, je regarde leur tête.
Mais cette dimension quand même de solistes, donc des gens seuls, qui jouent ensemble, c'est quand même aussi ce que raconte beaucoup ce film.
Oui, ils sont très seuls tous. Charlotte Rampling, Elena, c'est ça, elle dit qu'elle est un monstre, je pense qu'elle est un monstre de solitude. Et François, Mathias... est très très seul pendant tout le film, et Nadia qui cherchait à être l'épouse de son mari, la mère de son enfant, etc. Voilà que tout d'un coup elle est radicalement poussée dans un recoin de solitude, et voilà qu'elle va devoir se définir pour elle-même. Mais alors ils peuvent se frotter, même Max est tout seul, on ne sait pas, Max c'est l'agent, il peut les gérer, on ne sait pas d'où il vient, d'où il apparaît miraculeusement, il disparaît, il revient, il est tout seul. Et tous ces personnages se frottent un peu les uns aux autres, comme ça l'enfant, quand Mathias va le rencontrer enfin, il va se frotter un peu l'un à l'autre, et pour se dire, ok, t'es seul toi aussi? Oui, moi je suis seul, oui. Vous voyez, ils calculent comme ça leur solitude, et ces frottements, je les trouve très érotiques.
Érotique?
Oui, en tout cas, surtout entre Elena et Mathias.
Ils sont d'autant plus obligés de se frotter que, comme l'a dit Claude, c'est une petite ville.
Oui, c'est une idée qui vient du producteur, de Pascal Cocheteux. Il disait, faut pas que l'action se passe à Paris, parce qu'il faut pas que ce soit le plus grand pianiste du monde, faut que ce soit un très bon pianiste, ça suffira amplement. Et on cherchait une ville où il y ait un orchestre, une scène nationale, et Lyon était l'une d'entre elles. Et comme il y a une espèce de rêve italien qui court sur tout le film, l'idée de partir, de d'aller là où les amours sont pas impossibles, d'aller en Italie, espèce de rêve stendhalien comme ça. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai vu qu'il y avait le côté mystérieux, le côté film à fantômes, mais qu'il y avait aussi ce rêve, cette promesse d'Italie qui règne partout à Lyon, dans l'architecture, dans la forme des volets, dans des choses comme ça. Donc c'est devenu le foyer du film.
C'est-à-dire qu'une ville peut influer sur le scénario, mais évidemment aussi sur la mise en scène. C'est-à-dire qu'on ne filme pas bien Lyon sûr. Comme on filme Paris ou Roubaix.
Non. Ça change les façons de mettre les caméras, etc. Même ce qu'ils appellent l'auditorium, la Philharmonie de Lyon, qui est très spécial, qui ressemble à un vaisseau spatial de Stanley Kubrick, qui est tout à fait étrange, avec ces trucs brutalistes en béton et tout ça, ça modifie la façon de filmer, bien sûr. Ça l'affecte.
Et on tient compte des films qui ont été tournés là-bas, parce que Lyon est une ville de cinéma. On va pas remonter forcément la sortie des usines Lumière, mais enfin, c'est une ville qui a été beaucoup filmée, en tout cas par des gens qui se la sont appropriée comme leur territoire.
Vous voulez dire Tavernier ?
Par exemple.
J'ai pas revu les films de Tavernier. Je me suis plongé dans le... Vous savez, je connais nettement mieux le cinéma américain que le cinéma français. Donc, du coup, vous tapez sur l'endroit de mon inculture, de mon ignorance absolue. Je me souviens, Roger Saint-Paul, bien sûr, etc. Mais j'ai pas désiré les revoir. Je préférais nous confronter, Paul Guillaume et moi, à la ville de Lyon.
Alors, qu'est-ce qu'il y a du cinéma américain dans
Comment
ces... Qu'est-ce qu'il y a du cinéma américain dans ces deux pianos ?
Ah, il y en a. J'ai une spectatrice lyonnaise qui s'est plainte.
Ah bon ?
Oui, elle a dit ça ressemble pas du tout à Lyon, ça ressemble au film américain que vous voyez dans les années 90. Je dis madame, vous n'avez pas tort. Vous voyez parce qu'il y avait une poubelle en métal au début du film sur lequel Mathias trébuche. Elle disait non, à Lyon les poubelles sont en plastique. Je dis oui, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a une photogénie naturelle aux États-Unis. Vous mettez un homme ou une femme en costume policier français, il a l'air d'un idiot. Et vous, en américain, il est tout à fait terrifiant. Ça marche nettement mieux, quoi. Vous prenez les voitures, les trucs, le mobilier urbain français est tellement disgracieux. Vous voyez, c'est vraiment très difficile à filmer. Et alors du coup, vous voyez, dans Spectateur, par exemple, quand on voyait Salif Cissé remonter les grands boulevards, on a mis une fausse cheminée, vous voyez, avec les fumées, comme les travaux, vous voyez, qui est à New York et tout ça. Alors évidemment, il y avait des souvenirs de Taxi Driver avec De Niro, les mains dans les poches de son blouson. Vous voyez, on voyait Salif Cissé qui déambulait fièrement sur les grands boulevards. Ça faisait plus classe, quoi.
Alors, le parc de la Tête d'Or, ce n'est pas l'Empire State Building, mais on peut un peu penser à Elle et lui, tout de même.
À Central Park, bien sûr, on peut penser à ça, quand même.
Non, mais oui. Il y a quelque chose du film de Léo Macaré.
Il y a quelque chose, oui. C'était le titre du projet. C'était Une affaire qu'on voulait appeler. Alors, tout le monde s'était attaché au titre. Et chez le producteur, Pascal Cocheux, aussi, parlait du titre. Et c'est très bien, Une affaire. Je dis oui, mais ça veut dire une aventure extra-conjugale en anglais. C'est pas du tout le même sens en français. Et donc, il fallait trouver un titre qui vienne enrober ça, mais il y avait un souvenir, oui, une pensée d'Une affaire to remember, qui est un point du mélodrame totalement assumé, de point entre le romanesque et le romantique, qui, voilà, de déclarer fièrement, c'est pour ça que c'était notre titre de projet, de dire ben, fièrement, on va embrasser le mélodrame.
Alors, dans Elle et lui, quand ils se retrouvent, on ne chute pas, mais chez vous, comme souvent, il y a des hommes qui tombent. On pourrait dire que le cinéma d'Arnaud Desplechin, c'est regarder les hommes tomber.
Oui, bien sûr. Oui, je sais pas pourquoi. Je me souviens de la chute spectaculaire de Mathieu Amalric dans Comment je me suis disputé, qui dévalait des escaliers et puis qui se relevait en disant non, tout va bien, retournez à vos études, etc., qui était tout à fait péremptoire après une chute où il était absolument pathétique. Et c'est vrai que j'aime bien voir les hommes chuter, peut-être parce que quand je vois Chaplin tomber, ben ça me fait rigoler, ça m'émeut énormément en même temps. Et puis tout d'un coup, l'homme a un derrière, il tombe, il a l'air tout bête, ça le rend plus humain. Et c'est vrai que j'aime bien voir, au contraire, les personnages féminins arriver enfin à s'emparer d'elles-mêmes. C'est donc j'aime bien voir les femmes triompher d'elles-mêmes et les hommes tomber d'une manière pathétique. J'aime bien voir le ridicule masculin et l'empowerment ou la gloire féminine.
Do it again. I may say no, 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 but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you Mama, miss, call me, 'cause she's told me it is naughty, but then, oh, I'd do it again. Please do it again.
On n'entend pas Marilyn Monroe chanter dans votre film Arnaud Desplechin, mais ce Do It Again de George Gershwin, il y a quand même droit à sa version piano solo par Charles Esser. Merci d'être venu nous parler de vos deux pianos. Le film est en salle depuis ce mercredi. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, après deux pianos, voici les deux pagnols annoncés. Celui âgé qui à Paris et à l'apogée de sa gloire s'apprête à écrire ses mémoires. Et puis le petit Marcel, surgi de sa Marseille natale et de ses garrigues adorées, qui se rappelle à son bon souvenir. Au départ, ça devait être un documentaire suscité par le petit-fils du dramaturge et cinéaste Nicolas Pagnol, qui entretient la flamme de l'œuvre de son aïeul en restaurant assez magnifiquement, il faut le dire, ses films. Sylvain Chaumet, l'auteur des Triplettes de Belleville et de L'Illusionniste, ne devait au départ réaliser que des moments animés pour évoquer des moments de sa vie. Et puis voilà, ces séquences ont tellement emballé les financeurs potentiels qu'il s'est finalement attelé à un biopic entièrement en dessin animé qui rend justice à l'œuvre tout en évoquant assez finement les milieux du théâtre parisien et marseillais et la découverte enthousiaste par un cinéaste naissant des possibilités d'un art devenu sonore. Ça évite les écueils habituels du genre où des vedettes d'aujourd'hui se griment avec force postiche pour ressembler à leur modèle, et puis ça permet aussi de faire ressurgir du passé des figures aussi réjouissantes qu'un Rému, et rien que pour ça, ce Marcel et Monsieur Pagnol vaut le détour. Nous avons rencontré Sylvain Chaumet dans la cour d'un hôtel lors de son passage à Paris.
Paris, sa population chic et sympathique, ses serveurs chaleureux et attentionnés, ses artistes sobres et raffinés, Paris c'est le charme, Paris c'est la fête, Paris c'est l'amour, Paris sera toujours Paris. Au départ de Marseille, en à peine 15 heures, grâce au train Paris-Lyon-Marseille, Paris n'attend plus que vous.
Paris n'attend plus que nous. En attendant, c'est nous qui attendons Paris.
Excusez-moi, ça fait 2 heures que le train est bloqué à Lyon. Vous savez quand il repartira pour Paris ?
Vous êtes un comique, vous. C'est marqué quoi, là ?
Gare de Lyon.
Et elle se trouve où, la gare de Lyon ?
La gare de Lyon, elle se trouve à Lyon.
Eh bien non, monsieur. La gare de Lyon, elle se trouve à Paris. Pécore.
Oh, bravo, Pagnol.
Bonjour, Sylvain Chaumet.
Bonjour.
Par quoi est-ce que vous êtes entré dans l'univers de Pagnol au tout début ? Est-ce que c'est par les films ou est-ce que, comme beaucoup d'enfants de votre génération, et j'en atteste, ça a été par la lecture de la gloire de mon père et le château de ma mère ? Et si c'est le cas, est-ce que vous aviez déjà des images dans la tête ?
Moi, j'ai une histoire un peu particulière avec la gloire de mon père. C'est-à-dire que j'étais à l'école et je n'aimais pas la lecture, j'arrivais pas à finir les livres. Et on s'est rendu compte plus tard qu'en fait, ça me donnait mal au crâne parce que j'avais un problème aux yeux. Et on l'a su beaucoup plus tard. Et donc, c'est étonnant, quand j'ai lu la gloire de mon père, je l'ai lu en une traite. Et malgré le mal de crâne, j'ai adoré. Et ça m'a donné envie de dévorer d'autres livres.
Ça évoquait quoi chez vous ? Je ne sais pas d'où vous venez, mais si vous étiez un petit Parisien, c'était pas exactement l'univers dans lequel vous baigniez.
Oui, j'étais un petit banlieusard. Et donc, effectivement, la garrigue à Poissy, c'était pas, j'avais pas tellement de repères, en fait. Et donc, je m'imaginais un truc très exotique. Je sais pas pourquoi, parce qu'il parlait aussi de la mer. Donc, j'ai l'impression que c'était comme une île avec des palmiers, éventuellement des singes et des choses comme ça. Et j'ai connu le sud de la France bien plus tard en allant en vacances avec mes parents. Et donc, j'ai gardé ce côté exotique, oui.
Alors, de même que le vieux Pagnol ressuscite le jeune Marcel pour se replonger dans ses souvenirs d'enfance, est-ce que vous-même, quand vous avez commencé à travailler ce projet, vous avez convoqué le petit Sylvain qui avait découvert Pagnol pour la première fois ?
Bah, toujours, j'ai toujours ça de toute façon. Et je pense que la plupart des créateurs ont toujours cette relation avec leur petit qui vit à l'intérieur. Et j'ai toujours ce côté, j'ai même presque été très très touché quand on m'a proposé de travailler sur Marcel Pagnol, parce que justement la relation que j'avais avec le petit Marcel et ce petit camarade, on avait le même âge quand moi je lui lisais ses aventures. Et du coup, ça m'a énormément touché et ça m'a parlé directement à l'enfant qui était en moi, et je me suis dit, il faut que ce petit Marcel soit là et qu'il vienne. Et étonnamment, quand on m'a proposé le projet, j'avais 9 ans de moins, puisque ça a duré 9 ans. Et maintenant, j'ai exactement l'âge qu'a Marcel, le vieux, ce qu'on appelle le vieux Marcel. Et je l'ai rendu un peu moins vieux, du coup. Il est beaucoup moins vieux qu'il était il y a 9 ans.
Mais c'est un film de fantômes, ce Marcel et Monsieur Pagnol, parce qu'il y a le fantôme de cette enfance, et cet enfant lui-même est hanté par un fantôme qui est celui de sa mère. Vous vous êtes rendu compte à quel point vous faisiez un film de fantômes ?
Des doubles lectures de fantômes. J'imagine que le petit Marcel, c'est pas vraiment un fantôme, puisque je pense qu'il est vivant, et tant que Marcel est vivant, le petit garçon est vivant. Mais effectivement, il y a ce que Marcel appelait ses fantômes chéris, enfin tous les gens qui l'ont quitté, et entre autres sa mère, ça a été le pire drame de sa vie. Surtout pour un petit garçon qui... vous savez, quand on est... La personne qui est la plus proche de vous, c'est votre maman, puis elle vous voit avec des yeux d'amour, et donc vous avez envie de lui plaire, vous avez envie de l'impressionner. Donc Marcel lui écrivait des poèmes. Moi, à ma maman, j'écrivais des... Enfin, j'écrivais pas des poèmes, je dessinais pour l'impressionner. Et ça a dû être terrible dans sa vie, parce qu'elle est morte vraiment très très jeune. Il avait juste 15 ans, et c'est un âge où on a envie encore de prouver des choses. Et quand il a commencé à réussir dans sa vie, il n'y avait plus cette personne-là pour le féliciter. Et donc il s'est un peu reporté sur beaucoup de femmes dans sa vie qui ont été ses muses. Il a eu vraiment besoin du regard des femmes et de l'amour des femmes. C'est un homme qui était passionné. Il a recherché la femme idéale toute sa vie. Je pense qu'il l'avait trouvé avec Jacqueline à la toute fin.
Fantôme encore, et peut-être qu'après je m'arrêterai là. De film en film, vous travaillez aussi une époque passée de la France. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Est-ce que c'est des motifs graphiques ? Est-ce que c'est une ambiance ?
Oui, c'est tout, c'est les atmosphères, et puis effectivement tout ce qui est graphique, parce que c'est des époques où tout était dessiné. Les affiches de films étaient dessinées, les affiches pour la publicité étaient dessinées, les voitures étaient vraiment dessinées par des designers. Il y avait vraiment une beauté de l'objet. Et dans ce film-là, c'est la seule fois, parce qu'il y a une petite partie qui se passe en 1974, où j'ai dû dessiner une voiture moderne, enfin de 74 forcément, c'était la R5, et j'ai trouvé ça d'une laideur, et je me suis dit, oh mon Dieu, ça serait très difficile effectivement de faire un film. Mais je pourrais éventuellement, peut-être un film sur les années 70, parce que là il y a quelque chose d'un peu exubérant, mais oui, c'est graphique. Moi j'adore les époques graphiques.
Marcel Pagnol, c'est d'abord un auteur de théâtre que vous le présentez, mais un auteur de théâtre qui fait un four. Et il présente sa pièce, il n'y a personne dans la salle, on sait que c'est parce qu'il y a des circonstances politiques, c'est la crise de Suez, les gens ont peur, les gens sont restés chez eux, mais l'échec, c'est intéressant parce que c'est ce qui va lui faire abandonner peut-être momentanément la scène et les écrans pour se lancer dans l'écriture. Pourquoi est-ce que vous avez voulu commencer par ce moment de la vie de Pagnol ?
Parce que justement, la vie de Pagnol, c'est fait de plein d'échecs. C'est quelqu'un qui adorait se faire peur. Il adorait faire des choses nouvelles qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans le théâtre de vaudeville au début, puis ensuite le théâtre en prose, ensuite le cinéma. Voilà, il a besoin de ne pas connaître les choses, de se faire peur. Et quand il les connaissait trop bien et qu'il était devenu vraiment un expert, il s'ennuyait. Il avait besoin de faire autre chose. Et là, à la fin de sa vie, je pense qu'il avait décidé d'arrêter tout. Effectivement, le Fabien ne fonctionne pas. Et il a décidé d'arrêter. Puis on lui propose ce truc qu'il a correctement oublié. D'ailleurs, il était tellement pas motivé pour écrire. Et à 62 ans, il devient écrivain. Et d'ailleurs, la préface de La gloire, mon père, il raconte ça, justement. Il raconte cette peur qu'il a en disant « Moi, j'ai toujours fait des dialogues, et les dialogues étaient dits par d'autres. Et là, c'est à moi de le dire directement. » Et ça lui faisait peur, et c'est formidable, et je ressens ça aussi un petit peu. J'aime bien aussi ce qu'on appelle le challenge, c'est pas vraiment un mot qui est vraiment très très vilain, mais l'aventure, c'est plus joli.
C'est aussi quelqu'un qui, même quand il le fait ce qu'il sait faire, il a des doutes en permanence. Enfin, c'est quelqu'un qui flippe beaucoup. Qu'est-ce que vous avez projeté de vos propres angoisses de créateur là-dedans ?
Moi, je suis en plein dedans, là. Parce que je reviens de la tournée marseillaise, donc là ça a été formidable, ça m'a énormément rassuré. Les Marseillais aiment le film. Ils n'ont rien dit sur l'accent, tout est formidable. Et vraiment, je les ai trouvés très, 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 très émus. Très, très émus. Mais oui, les angoisses, oui, on les a toujours. On les a toujours et on pourrait pas faire, enfin, je ne me vois pas faire un travail de fonctionnaire et de faire quelque chose que je sais faire. C'est la facilité, c'est ce qu'il y a de pire pour quelqu'un qui essaie de créer des choses. C'est pour ça que j'avais accepté d'ailleurs ce projet au début, parce que ça devait être un documentaire. J'avais jamais fait de documentaire, je me suis dit, tiens, voilà, une nouvelle aventure. Et puis, finalement, le dessin animé m'a rattrapé, et puis voilà.
Je te remercie, Alexandre.
De quoi, monsieur ?
Vous me laissez diriger les acteurs, ça a énormément rassuré Rémi.
Je n'ai jamais dirigé d'acteur qui parle, et toi, tu n'es jamais servi d'une caméra. Il faut savoir s'entraider.
Monsieur Corda ?
Qu'est-ce que ça ?
La voix de Monsieur Rému n'est pas photogénique. Nous ne pouvons pas l'enregistrer.
C'est bien dommage pour vous, parce que nous ne pouvons pas remplacer Jules. Vous, on peut.
Qui est-ce qui parle de remplacer Jules ?
Bonjour, monsieur.
Ah, c'est vous, le téléphoniste ? C'est vous qui n'entendez pas ma voix ? Vous voulez que je crie, c'est ça ? Monsieur Brun, ne le dites à personne qu'escarte-figue est cocu.
Pas si fort.
Je vous dis qu'escarte-figue est cocu.
Il va me filer la pastille.
Monsieur, vos appareils américains ne savent pas encore le français. Venez prendre l'apéritif avec moi. Pour habituer vos oreilles à mon trombone, je vous réciterai des fables.
Et ça, Jules, c'est une fable ?
Quand on pense que ces pauvres bougres de Parisiens font la queue pour se faire raconter des histoires de Marseillais.
Commencer par le théâtre, c'est aussi comme si cette forme contaminait le reste du film. On a très souvent le sentiment, assez vite, qu'on est devant une scène de théâtre, vous utilisez le plan large, il y a beaucoup de personnages, la caméra est là, regardez longuement les personnages, si on était dans la vie réelle, c'était un choix assumé ?
Complètement, oui. Complètement. Je me suis dit, toute la partie théâtrale, je vais faire du théâtre. Et c'est justement pour après, quand il décide d'abandonner le théâtre pour faire du cinéma et qu'il doit expliquer à Rému, qui est forcément furieux qu'il abandonne le théâtre, de lui expliquer pourquoi il veut faire du cinéma. Et d'expliquer aux gens, eh ben, effectivement, quand on passe du théâtre au cinéma, voilà ce qu'on peut faire. Et dès que Pagnol commence à parler du cinéma et de ses possibilités, alors la caméra se met à bouger, la caméra commence à faire des zooms, commence à faire, il y a des plans de coupe qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais que les gens ressentent. Donc apparemment vous l'avez ressenti.
D'autant que quand Pagnol raconte ça à Rému, c'est qu'il revient de Londres où il a découvert le cinéma parlant. Tout d'un coup le cinéma l'intéresse parce qu'il devient parlant. Et vous aussi, votre film est devenu parlant. Vous faisiez un cinéma qui était très proche du burlesque, cet héritage du cinéma muet. Qu'est-ce que ça a changé en termes d'animation, tout d'un coup, de faire dialoguer vos personnages?
Ça a changé énormément de choses. J'ai dû travailler du coup parce que je devais avoir une justesse de jeu, parce que là j'avais vraiment des gens qui parlaient et souvent ils parlent debout ou à tabler ou en jouant à la pétanque, et donc il fallait vraiment que ce soit juste. On pouvait pas simplement faire des pauses un peu comme dans les triplettes où là tout est exprimé par le corps, mais surtout avec les Marseillais il fallait que ça bouge aussi avec les bras. Et donc on a fait à la Disney, c'est-à-dire quand Disney commence à faire quand ils font Blanche-Neige et les Sept Nains et tous les autres films qu'ils ont fait par la suite, il y a des références avec des acteurs en costume pour interpréter les personnages. Alors évidemment, c'est pas le physique des personnages, on n'a même pas gardé leur voix, on a juste gardé leur jeu, et même le physique, enfin même les proportions ont changé. Ça garde juste le jeu, mais il y a une subtilité, une vérité qu'on peut pas obtenir autrement. Donc j'ai suivi la vieille méthode Disney, et puis moi ça m'a permis aussi de faire un tournage en vue réelle, que j'adore, et les acteurs ont apporté des choses vraiment formidables.
C'est pour ça que ça respire, ça hésite, ça s'arrête. Par moments, vous avez conservé, en effet, en animation, et c'est assez rare, tout ce qu'il y a d'humain dans le jeu.
Et ceci dit, je leur avais demandé de ne pas jouer naturellement. C'est-à-dire que je leur ai demandé d'exagérer les gestes, et je leur ai demandé, quand vous finissez votre geste, vous ne bougez plus. Parce que nous, ça nous coûte de l'argent si vous continuez à bouger. Et donc, c'était une autre façon pour eux de travailler, mais ça a été passionnant, parce qu'ils ont vraiment suivi cette méthode. Et vrai, il y a quelque chose de naturel. Quand je vois le film sans le son, je vois cette fluidité. Il y a une vraie musicalité dans le jeu.
Et ce qui est exagéré aussi, ce sont les proportions des personnages. Les têtes sont grosses, les mains sont grosses. C'est-à-dire que ce sont à la fois des personnages caricaturaux par la caricature du dessin, et puis qui doivent se mouvoir. C'est un choix pratique, esthétique, ces disproportions.
Bah c'est mon style, en fait. Je me suis rendu compte que quand on devait adapter des personnages humains à mon style, effectivement, ils ont des têtes énormes et des mains aussi très très grandes, aussi des pieds. Et c'est mon style. Donc si on avait gardé les proportions des têtes des humains, bah non, ça aurait plus du tout été mon style. Et c'est marrant, une fois que c'est dessiné, on s'en rend plus compte. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas « la tête est énorme ». On se serait dit « la tête est petite » si on avait vraiment fait le reste. Mais et les têtes, en plus, on a modifié les têtes, c'est des autres têtes. On a travaillé aussi avec un peu de CGI pour les têtes. On a modélisé des têtes en CGI. Donc c'était très très complexe comme technique. Mais il fallait ça. Et puis en plus, je suis super content. On n'a pas du tout utilisé d'intelligence artificielle. On a utilisé des animateurs, des vraies personnes qui ont dessiné. Et puis on a aussi utilisé des vrais acteurs, et pour les voix, on a utilisé des vrais gens de post-synchro. Donc c'est que de l'humain, c'est que de l'authentique, 100% fait maison.
Oui, parce que le CGI, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce sigle à l'anglaise, ce sont les images générées par ordinateur. Or, ce qui frappe toujours dans votre travail, c'est à quel point vous conservez le trait, la vibration du trait, comme le faisait, vous parlez de Disney à l'époque des 101 Dalmatiens, de Merlin l'Enchanteur, enfin toute cette époque, on a l'impression que c'est pas gommé et que le crayon vit. Or, vous l'avez fait par informatique, donc vous avez voulu générer cet effet.
En fait, par informatique, il ne se passe rien d'autre, qu'on travaille juste sur un écran. Donc, c'est le premier film que je fais où il n'y a plus de papier, mais le geste est toujours là, on a toujours un stylet, on travaille sur un écran et on dessine chaque dessin, donc à peu près une douzaine de dessins par seconde par personnage. Et cette vibration, c'est le côté humain justement, c'est le côté organique, ça vibre, c'est ce qui est vraiment particulier au dessin animé. Et je me suis rendu compte que dans les regards des personnages, comme c'est redessiné et que c'est pas parfait, ça donne une vie au regard, ça donne quelque chose que même en CGI, enfin par ordinateur, on n'arrive pas à faire. Et le seul personnage qui ne vibre pas dans le film, vraiment pour vous expliquer à quel point la vibration c'est la vie, c'est Rému quand il est sur son lit de mort. Et là, si on l'avait fait vibrer, c'était complètement gâché. Donc c'est le seul qui est un seul dessin unique.
Il y a des images qui tout d'un coup prennent une texture différente. Ce sont les images des films de Pagnol. Quand ils sont projetés, ils sont un peu altérés, mais ce sont les vraies images des films. Vous auriez pu les redessiner, comme vous avez dessiné les répétitions. On est dans le décor de Marius, et puis tout d'un coup, on voit la scène du film. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est quand même prendre un risque que de confronter des images réelles à des images dessinées.
C'est un choix que j'ai assumé parce que je l'avais déjà fait dans mes précédents films. Donc, comme j'ai vu que ça marchait dans les autres films, tu dis, faisons-le dans celui-là. En plus, je pense que les gens sont très très heureux de revoir aussi les vrais comédiens de cette époque-là. Et puis, évidemment, si on avait dû tout refaire en dessin, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Ça aurait été, il y a ça aussi parce que c'est une économie un peu vorace l'animation. Et donc. Puis bon, effectivement, j'ai quand même un peu abîmé les images de manière à ce que ça puisse pas être trop lisse pour pas que. Et c'est Nicolas Pagnol qui m'a beaucoup touché en disant que finalement les images du dessin animé sont plus vraies que les images des archives.
Et vous créez aussi de l'archive, puisqu'il y a ce film, puisqu'on parlait de fantômes, il y a le grand film fantôme de Pagnol, qui est La prière aux étoiles, le film qu'il a détruit pour qu'il ne tombe pas dans les mains des Allemands. Comment est-ce que vous avez, alors là, pour le coup, réimaginé ce film ?
C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'utiliser une scène qui est une scène qu'ils ont redécouvert il y a à peu près 6 mois, enfin, ou peut-être plus, un an. Mais c'était nous, on finissait le film et Nicolas m'emmène pour voir tous les rushs qu'ils avaient retrouvés. Et il y avait cette scène que j'ai utilisée, non pas parce qu'elle était inédite, mais je l'ai utilisée parce qu'elle racontait quelque chose dans la vie de Pagnol à ce moment-là. Entre lui et Josette Day, qui est vraiment son histoire d'amour la plus douloureuse. Et en fait, ce film, il l'a écrit à une époque où on sent effectivement la douleur d'un homme, où le personnage masculin dit « c'est dur d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas » et où Josette Day répond « c'est dur d'être aimé par quelqu'un qu'on n'aime pas ». Et je trouve ça très très dur et c'est vraiment, c'est vraiment important à ce moment du film. Mais je n'ai pas montré évidemment tout le reste parce qu'ils en ont retrouvé pas mal quand même. Mais j'ai eu la chance de voir les extraits. Il y aurait plein de choses à dire sur ce film, mais parce que c'est vraiment c'est très très personnel par rapport à Marcel Pagnol.
Et puis enfin, vous montrez un Marcel Pagnol qu'on connaissait pas trop cette fois. C'est le Marcel Pagnol bricoleur, inventeur, obsédé par le mouvement perpétuel. Cette image revient régulièrement de ces mécanismes qu'il essaye de faire tourner en permanence. On s'imagine que c'est une métaphore du cinéma, une métaphore de sa vie, une métaphore de quelque chose en tout cas, Sylvain Chaumet.
Oui, c'est une métaphore de la vie, c'est l'éternel retour des choses de Nietzsche. Il y a quelque chose d'un peu par rapport à la vie de manière générale, par rapport à la mort, par rapport à l'absence. Et c'est vrai qu'il faisait, c'était un bricoleur incroyable, c'était un ingénieur. J'ai vu il avait breveté un boulon indévissable. C'est incroyable, il y a des choses comme ça. Et il y a une anecdote qui est très très drôle, c'est qu'en fait, avec une de ses machines, parce qu'il en a fabriqué plusieurs, des perpétuelles, il y en a une qui utilisait de la vapeur. Donc une machine à pression qui devait être perpétuelle. Évidemment, donc ça n'a pas marché, sauf qu'il était, quand il habitait, il n'avait pas encore écrit ses œuvres majeures. Et le boulon est parti, a traversé le plancher de l'étage au-dessus et est venu se ficher dans le lit où dormait. En fait, il a failli tuer André Malraux. André Malraux était à l'étage, donc il... J'ai failli le mettre dans le film parce que je trouvais ça très drôle et puis ça ralentissait beaucoup quand même.
C'est un gag à la Jacques Tati, ça qui reste toujours votre maître parce qu'il me semble avoir aperçu sur le pont du bateau qui va en Angleterre.
Oui, il est revenu, oui. Mais j'aime bien remettre de temps en temps utiliser mes personnages qui reviennent dans les films. Il y avait le gendarme de la vieille dame qui revenait. Ensuite, j'ai remis il est revenu dans deux films d'ailleurs. Et puis Tati, oui, il fallait qu'il soit là, mais il allait à Londres, donc. Pour moi, ils sont toujours vivants, ils ne sont pas que sur un film, c'est-à-dire qu'ils sont là, et puis ils sont contents de temps en temps de faire une petite apparition, donc voilà, comme qu'en plus on ne les paye pas. Donc,
Merci beaucoup, Sylvain Chaumet.
Merci, moi qui vous remercie.
C'est dans les triplettes de Belleville qu'on entendait ce Bach à la jazz sous les doigts du pianiste Benoît Charest. Dans Marcel et Monsieur Pagnol, c'est un autre pianiste de jazz qui assure la musique, l'italien Stefano Bolani. Le film Marcel et Monsieur Pagnol est lui aussi en salle depuis mercredi. Puisqu'on vient de parler d'animation, ne ratez pas, si vous êtes ou si vous passez par Paris, la grande exposition consacrée au cofondateur avec Hayao Miyazaki des studios Ghibli, le grand Isao Takahata, réalisateur de ses chefs-d'œuvre que sont Le Tombeau des Lucioles, Pompoko et Mes voisins les Yamada. C'est jusqu'au 24 janvier à la Maison de la Culture du Japon. Il y a aussi jusqu'au 31 octobre un peu partout en France la fête du cinéma d'animation. À cette occasion, le toujours farouchement indépendant, solitaire et détonnant Bill Plimpton sera à Lyon les 20 et 21 octobre et Angoulême le 22 pour des projections, rencontres et des masterclass autour de sa filmographie en attendant la sortie le 5 novembre de son nouvel opus Duel à Monte Carlo del Norte. Si vous êtes en Occitanie, le festival Cinémed de Montpellier a ouvert hier ses festivités. Jusqu'au 25 octobre, vous pourrez vous replonger dans les très acides comédies italiennes de Dino Risi et rencontrer Raymond Depardon à l'occasion d'une rétrospective de son œuvre. Raymond Depardon, qui avec sa productrice et ingénieur du son Claudine Nougaret, seront nos invités la semaine prochaine dans Plan Large pour la ressortie en salle du premier volet de ces documentaires restaurés. Les passionnés de Jean-Luc Godard se procureront, eux, le numéro 3 de la revue d'art contemporain Magma, lancée à l'occasion de la foire Art Basel Paris. On y trouve en effet de magnifiques images prises par le photographe Stéphane Krasnéanski, des archives du cinéaste, alors qu'à la fin de sa vie, il mettait de l'ordre dans ses affaires avant de disparaître. Le tout accompagné d'un très beau texte de Patti Smith, qui avait tourné pour le Rollois dans Film Socialisme en 2010. On rappelle enfin que c'est ce mercredi qu'est sorti en salle le délirant, foisonnant et réjouissant Dracula du digne héritier de Jean-Luc Godard qui est Radu Joudé et dont il nous avait parlé ici il y a 3 semaines. Ceci annoncé, place maintenant à un autre monstre, un géant.
Bold. Bizarre. Terrifying. Rock Hudson in an astonishing change of pace. Stars in seconds. Rock Hudson as a second, freed from all responsibilities, now ready to taste new pleasures. Yes! Yes! Rock Hudson. As a man who buys for himself a totally new life, a chance to begin again. Every man's dream since time began.
As soon as these people leave, I'm going to attack you. I want you. you to know that.
I'm counting on it.
Rock Hudson, as a man who lives the nightmare of being a second.
Why are you all staring at me like that? Hey, John. Why are they staring at me like that?
They know.
They know what?
They're like you. Reborn.
Oh, Laura!
Audacieux, bizarre, terrifiant, Rock Hudson. C'est comme ça qu'en 1965, on présentait l'acteur dans la bande-annonce américaine de l'opération diabolique de John Frankenheimer, un de ses films qui secrètement parlait de l'homme derrière la star et de la faille dans la montagne. À l'occasion des 40 ans de sa mort précoce, le 2 octobre 1985, et du centenaire de sa naissance, ce sera le 17 novembre prochain, sort un coffret rassemblant en Blu-ray 10 de ses films les plus emblématiques, restaurés en haute définition, et puis un livre tout à fait passionnant, signé du critique Adrien Gombeau. Ça s'appelle « Géant, vie et mort » de Rock Hudson. Enfant de James Stewart, plus que frère de Marlon Brando, écrit Adrien Gombeau, Rock Hudson serait à la fois la première star hollywoodienne à mourir du sida et l'ultime héritier d'une race en voie d'extinction. Et c'est précisément à l'articulation de ces deux états de la star que se tient ce livre, Charlotte Garçon.
Oui, alors pour les auditeurs peu familiers de Rock Hudson, mais familiers de plan large, rappelez-vous les nombreuses évocations des mélodrames de Douglas Sirk à ce micro, dont deux chefs-d'œuvre, Le Secret Magnifique en 1954 et Tout ce que le ciel permet l'année suivante. Dans le premier, le playboy arrogant qui s'accidente en hors-bord, what else, avant de séduire par un virage à 180 degrés la veuve qui a perdu son mari par sa faute, c'est lui. Dans le second, Rock Hudson est le non moins beau gosse Ron Kirby, pépiniériste, ça se dit nurseryman en anglais, qui rencontre une autre veuve, jouée par la même actrice Jane Wyman, toujours de 8 ans son aîné, en lui vendant un sapin de Noël, puis en l'initiant à son mode de vie rousseauiste, inspiré par la philosophie individualiste américaine et le Walden ou la vie dans les bois de Thoreau. Alors, né Harold Scherer sur les rives du lac Michigan et rebaptisé du nom d'un fleuve new-yorkais, l'acteur de 30 ans, chemise bûcheron et sécateur de jardinier, incarne dans ce film, vous en souvenez, l'équilibre rêvé entre une haute stature physique, 1m96 quand même, et une non moins haute stature intellectuelle. Adrien Gombeau scande les chapitres de son livre par des paragraphes qui ont principalement pour titre les noms connus ou inconnus des acteurs, agents, producteurs ou médecins qu'a croisé Rock Hudson. Alors cette construction un peu à la Citizen Kane diffracte le portrait de l'acteur, transformé et même parfois ballotté au gré de ses rencontres. On est vraiment loin des monographies qui tentent aujourd'hui de rendre aux stars hollywoodiennes la part auctoriale qui leur revient par-delà le façonnage industriel. Rock Hudson, lui, de conditions modestes, n'a pas de vocation théâtrale. Ce n'est que par relation qu'installé à Hollywood, il va devenir le protégé d'un directeur de casting important, Kiefler, dans, je le cite, ce grand péquenaud du Midwest, l'ancien marin, le facteur, le livreur. Autant dire de la bonne chair à canon de cinéma. Il jouera donc le chef indien dans Winchester 73 d'Anthony Mann, aux côtés de James Stewart, son premier rôle conséquent, puis Taza, fils de Cochise, rejeton du chef Apache donc, chez Douglas Sirk en 54. Mais au milieu de la décennie, ce produit des studios taillé pour la libido des adolescentes est discrètement reconditionné par Universal pour plaire aux ménagères de plus de 50 ans ou à la limite aux célibatantes. Je sais que vous adorez ce mot valise pseudo-féministe très très années 80, Antoine. Célibatantes qui ont donc oublié d'avoir une vie amoureuse comme la Doris Day de Confidence sur l'oreiller ou d'un pyjama pour deux, au titre et aux situations aussi amusants que gênants. Gombeau pointe dans ses comédies romantiques ou celles qui suivront avec Gina Lollobrigida, les nombreuses allusions à l'homosexualité, dont un chauffeur de taxi qui croit Rock Hudson enceint. Quelque chose, en fait, est en train de changer dans l'Amérique d'Eisenhower, et même la fresque historique dont Rock Hudson est le personnage masculin principal, géant, de George Stevens en 56, en porte la marque, puisqu'il déplace ce point de bascule dans le Maryland des années 20, moment où la prospérité du riche éleveur texan joué par Hudson se voit couper l'arbre sous le pied par la découverte de gisements de pétrole qui viennent détrôner l'agriculture. Mais dans son essai ses biographiques, Adrien Gombeau situe la charnière en amont à une publication qui fait date hors cinéma et résonne, présume-t-il, dans la conscience de Rock Hudson. C'est l'année 1948 que paraît une étude du professeur Alfred Kinsey, basée notamment sur le fichier des rencontres homosexuelles qu'enchaîna l'écrivain Sam Stewart, où figure le tout jeune Rock Hudson. Ce rapport, le rapport Kinsey, intitulé « Le comportement sexuel du mâle humain », révèle que 37% des hommes ont connu une ou plusieurs expériences homosexuelles et il va créer une lame de fond dans l'opinion américaine. Peu de temps après est créé le premier torchon tabloïd de la presse d'outre-Atlantique, Confidential, qui marque le début d'investigations moins journalistiques que charognardes sur la vie sexuelle de Rock Hudson. Qu'en cela tienne, les publicistes hollywoodiens décident de marier la vedette à une lesbienne, tant qu'à faire. Mais le livre d'Adrien Gombeau ne se contente pas de décrire cette pratique du placard assuré à grands frais à leurs acteurs homosexuels par les majors hollywoodiennes. Il fait le choix, dès son ouverture, de raconter en parallèle de la trajectoire de Rock Hudson la découverte du sida et son repérage progressif par la communauté médicale internationale, des premiers symptômes reconnus rétrospectivement dès 69 aux premiers traitements français qui ne permettront de prolonger brièvement la vie de Rock Hudson que de quelques mois. Empruntant son titre à la fresque de George Stevens sur l'histoire du Texas, donc ce géant vie et mort de Rock Hudson s'avance comme une saga, un feuilleton d'une épidémie mondiale aux dizaines de millions de morts, ancrée dans un machisme que l'acteur lui-même a longtemps intégré, et surtout dans une homophobie criminelle. En 1983, le secrétaire adjoint à la santé du président Reagan déclare « Quand les homosexuels comprendront qu'ils ont affaire à une maladie mortelle, ils changeront de comportement et le virus disparaîtra ». Gombeau relate le vent de panique qui saisit l'hôpital américain de Neuilly où Hudson est soigné à l'été 85, après un communiqué de son entourage sur sa maladie. Il raconte aussi le refus des compagnies aériennes de vendre un billet de retour vers la Californie aux, je cite, « pestiférés ». Alors je vous laisse imaginer cette image à la fois complètement surréaliste et évidemment tragique, la star alitée seule dans un 747 loué à prix d'or. Devant ce Boeing quasi vide, ce jour-là, résume Adrien Gombeau, le docteur Dormont, pionnier des essais cliniques qui a procuré à l'acteur l'HPA-23, alors en cours de test, songe qu'il voit s'envoler l'équivalent de son budget de 5 années de recherche.
I love that. C'était la pianiste et chanteuse de jazz Perry Blackwell qui poussait dans Confidence sur l'oreiller Doris Day et Rock Hudson à chanter tout en se tapant dans les mains ce Holy Polly qui risque de rester dans vos oreilles tout ce week-end. Merci Charlotte Garçon, géant, vie et mort de Rock Hudson. C'est aux éditions Capricci. Quant au coffret de 10 Blu-ray, Rock Hudson, portrait d'une légende, c'est chez Elephant Film avec un texte inédit de Denis Rossano. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui à la prise de son Timothée Hubert. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.